c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme?
Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en.
Eh bien, moi, je plonge.
Et voilà, c'est reparti pour un tour.
Depuis la deuxième saison du Temps d'un Bivouac en 2014, chaque été, nous prenons de leurs nouvelles. Nous avons toujours passé au moins un coup de fil dans l'été à Alexandre Poussin pour savoir comment se passait le tour de Madagascar qu'il était en train d'effectuer en charrette à Zébu avec sa femme, Sonia, et ses deux enfants, Philae et Ulysse. Quand ils sont partis, ils ne savaient pas combien de temps durerait le voyage. « On prendra le temps qu'il faut », avait-il dit. Eh bien, il leur a fallu 4 ans pour boucler le tour de l'île, un périple de 5000 km dans un pays super superbe, qui recèle des trésors de biodiversité, mais qui est aussi l'un des plus pauvres du monde. Ils sont rentrés l'année dernière, fin août 2018, nous n'avons pas pu les recevoir, l'émission était déjà terminée. Aujourd'hui, enfin, ils vont nous raconter cette aventure hors du commun qu'ils ont vécue en famille. Ulysse, Philae, Sonia et Alexandre Poussin, sans leur charrette à Zébu, passent par notre bivouac. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre traîne savate planétaire préféré, Pierre Josse, rédacteur en chef du Guide du Routard, qui partagera avec nous quelques expériences vécues également à Madagascar.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Bon voyage, bonjour.
Misal Schmetzak. Ça fait 2 ans qu'on prépare ce voyage. 3 mois que je fabrique cette charrette. Le rêve est en train de prendre forme. Et c'est aujourd'hui, le 16 octobre, eh bien, qu'il devient réalité. Le départ a enfin eu lieu. C'est difficile à croire tant que c'était des mots et une idée. Mais maintenant, c'est une idée en marche.
Extrait de Madatrek, film produit par Gédéon, et autour de la table, Philae, Ulysse, Sonia, Alexandre, Poussin se sont installés. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Manaona Topko.
Alors ça, c'est du malgache?
C'est du malgache.
Très bien. Vous avez appris le malgache sur place?
Marne, hein? Marna Maf, oui. Ouais. Vraiment.
Ah oui,
c'est une très belle langue.
Oui, c'est une très belle langue. Avec beaucoup de syllabes pour dire.
C'est ça, c'est une langue très désarticulée, très analysée, et il faut la synthétiser et apprendre à la lire autrement. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, ça commence à rentrer.
Ouais, alors là, vous avez eu 4 ans en plus, ouais, pour l'apprendre. Alors, nous étions dans l'extrait que nous avons entendu le 16 octobre 2014. La charrette tirée par 2 zébus de votre famille s'élançait sur les pistes de Madagascar. Il était temps à entendre les enfants. Ils commençaient un peu à s'impatienter.
Ben oui, les enfants, tout va plus vite pour eux. Alors que là, nous, on est rentrés juste avant 50 ans dans un éloge de la lenteur, quoi. On a compris que la vie méritait d'être vécue en profondeur. C'était pour ça le choix de la charrette. C'était pour ça le choix d'y aller en famille, ouais, et de partager ça lentement, mais sûrement. Voilà.
Philae, toi, tu avais 9 ans quand l'aventure a commencé. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens bien?
De l'aventure, oui, je m'en souviens très bien. Par contre, de ce qu'il y avait avant mes 9 ans, j'ai un peu plus de mal, mais je m'en souviens aussi.
Ah oui, alors c'est ça, à 9 ans déjà tu t'en souviens difficilement. Alors Ulysse, pour toi en fait, tu n'as connu quasiment que Madagascar, parce que tu avais 6 ans quand l'aventure a commencé.
Oui, j'avais 6 ans quand j'ai commencé l'aventure, mais quand, 3 semaines après qu'on soit arrivé, j'ai eu 7 ans.
Donc. Oui. Donc, à partir de là, t'étais mûr. Tu pouvais affronter.
Là,
tu pouvais affronter l'inconnu. Tu as passé donc une grande partie de ta vie à Madagascar.
Oui, le tiers de ma vie à peu près.
Le tiers de ta vie, et c'est un bon tiers.
Un très bon tiers.
Un très bon tiers. On va voir ça avec toi. On a une appréhension quand même, Sonia, quand on décide de partir à Madagascar, qui est un très beau pays, mais qui est aussi un pays difficile, l'un des plus pauvres de la planète, et qu'on décide d'y aller avec des enfants jeunes.
Alors nous, on est un peu déshabitués des grands voyages. D'habitude, on n'est pas si inquiets, mais c'est vrai que la nouvelle donne avec les 2 petits-enfants, notamment tout ce qui était au niveau sanitaire, on était un peu inquiets. Il y a quand même la peste. Chaque année, il y a des maladies terribles là-bas, des maladies uniques, des maladies moyenâgeuses qui n'existent plus chez nous depuis très longtemps, mais qui existent toujours là-bas, malheureusement.
Mmh. Et qui concernent 150, 200, 300 personnes. Il ne faut pas s'imaginer que tout le pays est saisi par ces pandémies.
Oui, et comme c'est un peu ce que les médias relaient, avant de partir, évidemment, une maman, elle est un peu inquiète. Oui. Oui. Et finalement, on s'est rendu compte que...
On n'a jamais été malade en 4
non.
ans.
Non.
On n'a pas eu le palu, on n'a eu aucun de ces maux dont on parle. On a eu des plaies aux pieds, effectivement, parce qu'on marchait dans la boue et qu'on se faisait griffer par des branches. Alors, il y avait des petits staphylocoques. Mais voilà, hormis ça, on se souvient pas de tourista épouvantable. On n'a pas eu... On a eu une fois des amibes parce qu'on a bu de l'eau au robinet. Alors que pendant 4 ans, on a bu de l'eau de puits, de l'eau. Elle était toujours filtrée ou bouillie, notre eau. Non, non, on n'a pas été malade. Ouais. Ça n'a pas été le problème.
Mais pourquoi vous avez choisi cette destination-là, ce pays ?
La francophonie, nos ouais. liens historiques, la passion française pour Madagascar, toute la génération qui nous a précédés y est allée massivement, coopérant, professeur, médecin, architecte, ingénieur pour les ponts et chaussées, entre 60 et 70, c'est à l'époque où la génération précédente passait ses diplômes et ses études. Mon père n'y avait pas été, moi j'avais pas d'histoire familiale à Madagascar, ouais. je connaissais pas du tout, et on y est allé sans avoir rien lu sur le pays,
c'est ça,
on y est allé comme une terre vierge nous-mêmes.
Ouais, ouais. Vous êtes pas tellement préparé hein, pour non. un voyage qui pouvait durer longtemps, vous le saviez, hein, vous saviez pas combien de temps exactement, mais vous saviez que vous prendriez le temps de faire le tour de cette île, et vous êtes...
C'est de l'impréparation très préparée.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, au-delà de la formule qui est jolie?
Voilà, ça veut dire que le modus operandi, on savait comment on allait voyager et ce qu'on allait chercher. Et donc là, Charrette à Zébu, c'était déjà un prédicat. C'était déjà, on l'avait prévu, mais on ne l'a pas acheté. Parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a dit « Non, la charrette que vous achetez, elle ne peut pas faire le tour. »
Oui, c'est ça. Là-dessus, voilà. Ça montre l'impréparation. Vous vous dites « On va faire le tour de Madagascar en charrette à Zébu. » À peine arrivé, on vous dit « Mais les charrettes à Zébu ne sont pas faites pour ça. »
Là, ça prouve le fait qu'on écoute les gens. et qu'on lui a fait confiance à ce monsieur. Ouais. Son expérience, il était là depuis 30 ans. Il avait déjà fait des raids en charrette. Et la charrette des hauts plateaux, la charrette Merne à grande roue, il a dit « Celle-là ne peut pas faire le tour. » Alors, j'ai dit, pourtant, c'est là que je veux accompagner, qui veut emmener, et donc je vais l'adapter, je vais la métisser. On lui a donné les caractères des charrettes côtières.
Alors il a fallu que vous alliez faire un peu de repérage chez les fabricants de charrettes à Zébu.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Vous fabriquez des charrettes ?
Oui.
Incroyable, je vois qu'il y en a une, qui est finie là.
Oui, j'aimerais
bien. Et vous en avez qui sont en fabrication ?
Oui.
Ah, je veux bien les voir s'il vous plaît.
Voilà.
Mais c'est une table, ça, c'est pas une charrette. C'est une table.
Une table avec charrette.
Elle est où la charrette ?
Où est-ce que la charrette ?
Ah, c'est une structure. Donc oui, on peut partir de là. Oui, en fait, ça m'intéresse, moi, de la fabriquer plutôt que de l'acheter toute neuve.
Bon, on sent quand même qu'il y a une part d'improvisation, Alexandre.
Mais
là.
J'aime les travaux manuels. Ouais. Je suis quelqu'un, j'ai fait plein d'études, mais en fait, ce que j'aime, moi, c'est raboter, visser, coller, clouer, rêver, fantasmer.
Ça vous a pris 3 mois hein, de construire la charrette qui vous permettrait de faire le tour de Madagascar.
Éventuellement, si ça marchait.
Ouais. Elle ressemblait à quoi, cette charrette ? Alors, Sonia, décrivez-nous.
C'est une charrette traditionnelle, très jolie. Elles sont en bois. Elles sont normalement très lourdes. Elles sont faites pour pouvoir transporter 1 tonne de riz. La nôtre, on avait changé tous les bois avec des petits bois de contreplaqué ou de marine, des choses légères pour l'alléger au maximum. On a essayé de jouer beaucoup là-dessus. Surtout Alexandre et les enfants qui ont pas mal travaillé. Mais c'était quand même une charrette du 21e siècle. C'est-à-dire qu'elle était équipée de super panneaux solaires qui nous ont permis de brancher tous nos appareils, de pouvoir filmer, d'avoir un drone, d'avoir des ordinateurs, des téléphones, énormément de choses, et surtout de rendre un petit service qui devenait un très grand service parce qu'il n'y a pas d'électricité dans les villages, de pouvoir permettre à tous les villageois d'arriver sur le centre du village et de proposer à tout le monde de charger ses téléphones. Parce qu'ils ont tous un téléphone, mais il n'y a pas d'électricité. Donc ça pose quand même...
Je comprends mieux cet accueil en fanfare parfois, comme ici à Tuléar, dans le sud-ouest de l'île, accueil au son des batucadas. Impressionnant comme accueil, Alexandre. Vous, partout où vous passiez, vous créez un petit peu l'effervescence, le buzz à Madagascar.
Dans les villes, oui, et dans la brousse, c'était la stupéfaction.
C'est-à-dire, pourquoi ?
Mais que font ces Vazas en charrette ?
Alors les Vazas, c'est les Blancs.
C'est les Blancs, les étrangers blancs. Et forcément, notre démarche était un peu suspecte. Il fallait qu'on trafique quelque chose, quoi. Si on se paumait en brousse, c'est qu'il y a plein de trafic, ou il y a plein de rumeurs de trafic à Madagascar, et il y a plein aussi de légendes d'ogres. Les Vazas, c'est les ogres. les pacafous, les mangeurs de cœur. Ah oui. C'est ce qu'on dit, les grand-mères disent aux enfants s'ils sont pas sages. Attention, le vaza pacafou va passer.
C'est-à-dire là, que vous créez un peu l'effroi sur votre passage?
Oui, auprès des enfants, oui. Ça, oui, tout à fait. Parfois. Vous dites parfois très, très effrayé.
En ville, non, mais dans la brousse profonde, oui, parfois ils couraient, ils partaient en courant. Ouais. Et donc on déminait, on rassurait, on ouvrait la charrette, on montrait qu'il n'y avait pas de trafic d'organes, trafic d'os longs, trafic de saphir, trafic d'or, trafic de ce genre de trafic, parce que forcément, des colporteurs en charrette, les blancs, c'est toujours en voiture, c'est toujours pressé. Et là, il y en a qui sont pas pressés et qui ont des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont habillés en Quaker. Est-ce que c'est des missionnaires? Est-ce que, voilà, il y avait plein d'énigmes. Ouais. Et on passait notre temps à leur expliquer. Ça aide à apprendre la langue.
Ouais. Philae et Ulysse, vous vous êtes fait des amis, vous, sur place? Vous avez réussi à les rassurer, ces enfants auxquels vous faisiez peur dans un premier temps?
Pas trop, puisque pour les amis, parce que pour peur, c'est pas trop facile non plus, parce que tu le vois, ils hurlent, ils fuient, et soudainement, ils disparaissent, soit dans un arbre, soit dans un buisson, soit tu le vois sur notre colline courir avec la fumée derrière.
Ouais. Mais vous exagérez un peu, parce que moi j'ai vu des images où vous êtes entouré de 1000 personnes qui vous accompagnent.
Après, ils viennent.
Ah bah ça, c'est quand ils sont rassurés. Voilà. Alors là, après, mais au départ,
on a rarement filmé les fuites dans
c'est pas très glamour.
C'est pas très vendeur.
C'était un peu le syndrome de Frankenstein, vous voyez.
Ah oui,
on avait un peu cette sensation-là de temps en temps.
Non, mais mis à part, c'est que les petits-enfants, voilà, mais très vite, ils revenaient quand ils voyaient qu'il n'y avait pas de péril dans la demeure. Il y a les Dahals, il y a des bandits dans ces campagnes-là, et donc ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de... Les Dahals, c'est des bandits, des voleurs de grand chemin qui volent les zébus. Il se trouve qu'on avait des zébus, donc il y avait parfois un peu des tensions. Ouais. Mais comme vous l'avez dit, là, à Tuléar, on était toujours très bien à Diego, à Tamatave, à Majinga, on a toujours été merveilleusement accueillis par tout le monde.
Et le fait de voir des enfants, bien sûr, ça les rassurait beaucoup, parce qu'ils se disaient on peut pas être des méchants si on a des enfants avec nous. Mm-hmm. Parce que c'est très important chez eux.
C'était nos bodyguards, en fait. Les deux terreurs, là.
Nous mais ont protégé des brigands, d'ailleurs.
Vous plaisantez beaucoup, mais c'est vrai qu'on voit même dans les guides de voyage, tout le monde dit à Madagascar, au moins à partir du moment où la nuit est tombée, il faut faire attention. Voilà, c'est un pays pauvre. Il y a, dans certaines régions, de l'insécurité. Comment vous avez géré ça?
Alors, d'abord, on est la preuve vivante que tout cela est pas vrai, en fait. Madagascar est pas un pays plus dangereux que les autres. Effectivement, il y a des choses à ne pas faire. Il faut pas sortir la nuit, il faut pas porter d'or, faut pas être idiot, en fait. Il faut pas céder mais Rio de Janeiro est dangereux, Dakar est dangereux, Nairobi, on l'appelle Nairobi, la banlieue de Johannesburg aussi. Le monde entier est dangereux, en fait. Mm-hmm. Partout, c'est dangereux. Paris est dangereux. Marseille, c'est dangereux. Donc, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Et d'ailleurs, c'est la première chose que le consul de France nous a dit en nous accueillant, il a dit surtout, faites attention, respectez tout ce qu'on vous dira, et parce que il ne faut transgresser aucune règle. Dans ce pays, il y a plein de fumba, des traditions, et les gens, ils sont vraiment accrochés, et c'est vraiment les froisser que de ne pas les respecter. Donc, nous, d'abord, on était dans une démarche de respect, de compréhension de cette culture, donc on était au contraire, plus il y avait de traditions loufoques, plus on était content.
Oui, c'est ça.
Donc on faisait les tsujan. Les tsujan, c'est des bénédictions aux ancêtres quand on traverse un fleuve, quand on change de région, quand on quitte une ville. Tout ça, c'est des libations, en fait. On avait ça chez nous aussi avant. On faisait des prières, on s'arrête, on écoute. Les vieux, les razanes, les ancêtres viennent nous dire des choses. Ne vous dormez pas là, il y a cet arbre sacré. Mettez votre tente ici. Donc il fallait toujours créer le contact auprès des gens pour savoir ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Ouais.
Et votre voyage a un peu évolué au fil des rencontres. Vous y alliez en disant on pourra communiquer sur les problématiques du pays. Et petit à petit, confronté à des situations difficiles, vous vous êtes dit on ne peut pas se contenter juste de relayer, d'être témoin, d'être journaliste. Faut qu'on agisse. Sonia ?
Oui, c'est vrai. On a eu en plus... pendant ce voyage, des malheurs personnels, puisqu'on a perdu nos parents, et ils ont été très malades, tous les deux, ils ont chacun eu un cancer. Et on est rentré pour aller voir mon papa à Noël, et on s'est dit, on rentre pour voir papa, mais on va quand même essayer de faire quelque chose et d'être utile, que notre présence... parce qu'on avait l'impression de tricher avec notre aventure, parce que nous, dans toutes les aventures précédentes qu'on a faites, ce sont des grandes, des longues aventures, mais pas parce qu'on passe notre temps à l'interrompre. En général, c'est d'une traite. Ouais. Et là, on s'interrompait pour aller revoir nos parents. Ouais. Et
parce que vous aviez voyagé, mais alors que tous les deux, hein, quand vous étiez en couple, les enfants n'étaient pas encore là. Ouais. Vous aviez fait l'Africa Trek, vous aviez remonté toute la vallée du Rift en Afrique. Vous aviez refait, c'était en 2001 le départ,
oui,
je crois.
2004.
Pendant 3 ans, là, vous aviez marché un peu sur les traces des premiers hommes qui avaient migré en Afrique.
Donc, à la faveur de ces retours en France, on a fait des financements participatifs, du crowdfunding. Et en fait, on a pu continuer à les faire depuis notre charrette avec la clé 4G et les panneaux solaires, dans la brousse isolée du monde. On était finalement assez connectés et on pouvait continuer ces collectes. Et au bout de 4 ans, on a levé plus de 300 000 euros, c'est 400 000 aujourd'hui, parce que ça continue en fait, 300 000 euros pour 33 projets. Rencontrer en chemin. Donc telle bonne sœur qui a besoin de construire un dispensaire, telle école qui a besoin d'une salle de classe, telle personne qui a besoin, un chef de village qui a besoin d'un puits. On a fait de tout le panel de ce dont ce pays a besoin. Restauration de d'écosystèmes, réfection, remontage d'un lavoir historique sur la vieille ville de Fianarantsoa. C'était vraiment au petit bonheur de la chance, en fonction des rencontres que l'on faisait sur le chemin. Il y avait une demande, un besoin, on apportait une réponse financière.
Alors on va avoir l'occasion évidemment de détailler ça, on verra aussi comment la vie de famille s'est organisée pendant ce voyage en 4 ans. La famille Poussin est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Viens mon ami, partons le cœur léger, la route est longue. Avant midi, nous devons arriver, la route est longue. Longtemps j'ai douté, longtemps je l'ai redouté, le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. Combien j'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai nos balades dans les forêts. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Allez, avançons, il ne faut pas traîner, la route est longue. Avant la nuit, je dois être rentré, la route est longue. Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé. Les années, mon vieux, ont passé, ce que la vie nous a gâtés. Donne-moi ton dernier trot, la route est longue. Avant midi, le glas devra sonner, la route est longue. Longtemps redouté, longtemps, je l'ai repoussé, le grand jour est arrivé de t'emmener faire le dernier tour de nos prêts.
Avant midi, c'était Bastien Lallemand sur France Inter.
J'ai l'impression que c'est le radeau de la Méduse à l'intérieur. Sonia est en train d'empiler des trucs. Ouais! On peut rien faire. Ça fuit pas dans la charrette. Wouhou, t'en as de la chance. Bon ben ça va, la situation est sous contrôle ici. Les sacs d'expédition étanches en barrage.
Et alors juste avant la pluie, il y a eu, c'est pour ça qu'on est tout rouge, il y a eu un vent de poussière hyper violent et il y a plein de sable à l'intérieur, Alexandre. Tout est rentré, je ne sais pas par où. Tout est couvert de ça, de poussière rouge. Et puis après... Oh merde, là-bas, elle est défaite.
Vas-y. Ah, c'est bon, j'ai pas besoin de douche ce soir.
Ah. Ouf. La famille Poussin en début de saison des pluies à Madagascar. Sonia, Alexandre et leurs deux enfants, Ulysse et Philae. Pendant la saison des pluies, on imagine que les routes sont absolument impraticables avec la charrette à Zébu, Alexandre.
D'autant plus que la latérite se gorge d'eau, elle devient complètement savonneuse et glissante, mais glissante comme du verglas. Donc ouais. On se casse la gueule, on tombe dans la boue, ça devient tout de suite impossible. Donc c'est pour ça qu'à Noël on rentrait en France pendant 2 mois. La charrette était tankée avec de la boue jusqu'aux essieux, et ce qui nous permettait de faire ces collectes de fonds participatifs là. C'est le drame de ce pays, c'est l'enclavement, c'est que le manque de route, le manque d'itinéraire. Donc il a fallu inventer la route, il a fallu pas tailler dans la jungle à coup de machette, parce que la jungle est en péril, mais il
pas
a
loin.
Fallu...
Sonia a l'air de dire pas loin.
Il y a certains endroits, oui.
Et gravir des montagnes, traverser des fleuves, oui. C'est soit les rochers, soit la boue, soit le sable, enfin c'est un itinéraire droit, lisse, sans obstacle, ça n'est arrivé que dans les 50 derniers kilomètres, au bout de 5000 kilomètres. Ouais. C'est comme un miracle à la fin.
Ça fallait que ça se mérite, quoi.
Voilà.
les routes sont particulièrement défoncées à Madagascar.
Des pistes, en fait, il n'y a pas de route.
Pistes. Et en plus, vous, on le disait dans la première heure, en fin de première heure, parfois il n'y avait plus de route, c'était des bras de mer ou des fleuves à traverser, et là oui. La charrette se muait en un radeau, voire en bateau à voile aussi.
Oui, on trouve toujours les moyens, toujours des ressources, c'est toujours des gens bienveillants qui viennent vous aider, et moyennant finance parfois, mais ça passe, impossible n'est pas poussin.
Ouais, ça c'est la devise, c'est la voilà. Devise de la famille, et la charrette était aussi une école ambulante pour Philae et Ulysse.
Et vous essayez de travailler là-dedans ?
Oui ! On est en train de... Là, on s'attaque aux mathématiques.
Ouais.
Et ici, français, et là-bas, mathématiques.
C'est bien, mais en musique, ça vous gêne pas ?
Non, c'est sympa.
Un musicien, ça
va. Voilà, ce qu'on fait, c'est sympa. Là, on va faire...
Je préfère le français.
La phrase affirmative et la phrase négative. Donc, on va... c'est assez facile. Parce que ce soir, on est assez fatigué. Et c'est pas le moment idéal pour travailler, pour les petits-enfants. Mais c'est le seul moment où on arrive à trouver du temps. Sinon, dans la journée, il y a trop de choses à faire et voilà.
C'est l'étape.
Allez.
Ferme l'école.
Merci.
Toutes les familles qui envisagent un grand voyage comme ça au long cours, un tour du monde, au moins un an, se posent la question de l'école. Comment vous vous êtes organisés, Sonia et Alexandre, pour l'école ?
Alors, comme Alexandre s'occupait beaucoup de la charrette et de la façon de la faire justement passer des obstacles, nous on l'aidait beaucoup, mais on était des petites mains, nous. Hein. Le cerveau, c'était lui, c'est clair.
Les muscles surtout.
Les muscles. Les deux gros cerveaux.
Ouais.
Et avec les muscles. Et moi, je m'occupais de l'école. C'était ça ma fonction. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait l'école par correspondance, comme ce qui pourtant c'est très très bien, parce qu'au départ, je pensais que on aurait beaucoup de mal à renvoyer les devoirs faits, parce que je ne pensais pas que Internet marcherait aussi bien, surtout en brousse. Et finalement, avec les téléphones portables d'aujourd'hui, les smartphones, on peut très bien prendre une photo du devoir. Bon, j'aurais pu le faire mieux. Mais donc, ce que je faisais, c'est que je prenais le livre de mathématiques et de français de chaque année, et à la fin de l'année, il fallait qu'il soit entièrement fait. Voilà. Je me suis que focalisée sur ces deux matières.
Mais alors, Ulysse et Philae, pendant 4 ans, vous n'avez pas mis les pieds à l'école, ça vous a pas manqué,
Philae? Ah si, moi, ça m'a énormément manqué.
Vraiment, je m'attendais pas à ce que tu me dises que ça t'avait manqué. C'est les amis qui t'ont manqué ou c'est vraiment d'être assis en classe?
Non, c'est juste les amis. Hein, l'école, non, pas du tout. Non, moi, ce qui me manquait, c'était avoir une vie normale en quelque sorte. Je veux dire, aller dans une école avec des copines.
Ce qui manque, c'est ce qu'on n'a pas, quoi.
Ouais. Exactement. Mais maintenant, avec le recul, maintenant que je suis allée dans mon école, je me dis que quand même, la vie était bien plus cool à la charrette, exactement.
Alors pour toi, Ulysse, en fait, c'était un peu différent parce que tu avais à peine eu le temps d'aller à l'école et tu as commencé, en fait, à ton apprentissage dans cette charrette.
Oui, mais quand même, je me passais quand même très bien des cours de français, de maths, sauf que malheureusement j'étais rattrapée.
J'avais un grand fouet, moi, vous savez.
C'est-à-dire que toi, tu trouvais que ça venait trop souvent dans ce périple, les moments où il fallait faire les leçons, c'est ça que tu veux dire?
Oui, mais c'est relativement mieux parce que pendant le voyage, on faisait 1 heure par jour, si ce n'est aucune. Alors qu'à l'école, c'est 8 heures par jour assis à écouter quelqu'un parler.
Ouais. Et ça va encore parce que dans ton école, c'était relax.
Alors, vous avez eu aussi des cours grandeur nature, on pourrait dire. Hein. Vous êtes, c'était une sorte de cours de sciences naturelles permanent, ce voyage pour vous. Comme ici, particulièrement dans une forêt, une des très belles forêts malgaches. Une forêt où on trouve des animaux tout petits.
Cherche, cherche. C'est trop superficiel, là.
J'en ai une.
Waouh. Tu veux voir ? Oh, mais oui, t'as trouvé une petite grenouille. Vous la voyez, Nabé ?
Le guibémantis.
Guibémantis.
Ouais. Donc ne dis plus que je suis superficiel pour chercher.
Ah ben non, tu es pas superficiel, tu vois.
Venez voir, la plus petite grenouille du monde.
Vous l'avez trouvée ?
Oh, mon Dieu !
Oh, mon Dieu. Elle est minuscule. Elle est microscopique.
C'est le Stuntia vuibulensis. C'est la grenouille endémique de notre forêt de Vuibul.
Oh, elle est là. Et on dirait une puce.
Ouais, elle fait des grands bonds. Hein.
C'est magique. Elle est toute petite. Elle est tellement...
Quelle merveille.
J'ai envie de l'embrasser.
Si tu l'embrasses, tu l'avales. Hein. C'est gros comme une lentille.
Ah, elle a sauté.
Alors, qu'est-ce que c'est cet endroit où les animaux ont l'air minuscules? On a du mal à l'imaginer, à la visualiser, cette grenouille qui a l'air vraiment toute petite, Alexandre.
C'est la forêt de Lilliput. Les grenouilles ont la taille de lentilles, c'est minuscule et c'est la plus petite grenouille du monde. Ouais. Elle est en compétition avec une en Papouasie-Nouvelle-Guinée et une autre au Brésil, mais enfin, au micromètre près, c'est la plus petite du monde. Ouais. Et il y a aussi le plus petit caméléon du monde qui a été découvert en 2012, le Brookesia minima vuibulensis. C'est une mini-forêt qui fait 1000 hectares, c'est, ouais. C'est tout petit, 1000 hectares.
Mais toutes petites
orchidées.
C'est le
bois de Boulogne. Ouais. C'est et mini-orchidées, etc. Donc tout est précieux et menacé par des charbonniers qui viennent, qui savent même pas qu'elle existe, la forêt, la grenouille. Donc on essaye de la protéger depuis qu'on y est passé en 2016. On a fait des levées de fonds, on a sensibilisé le gouvernement, on a fait venir deux ministres, on a mis une grosse entreprise locale pour sponsoriser des programmes sociaux en périphérie de la forêt. Donc cette forêt, on essaie de la sauver. Mais bon, c'est compliqué parce que les intérêts locaux des charbonniers sont parfois plus forts. Mmh. Donc c'est une forêt qui est sacrée pour les populations locales. C'est pour ça qu'elle existe toujours, parce que toutes les autres ont disparu. C'est la dernière forêt littorale de la côte est à Madagascar. Ouais. Sur 1500 kilomètres, il n'y en a plus. Ouais. C'est la dernière.
En fait, tout le long de votre voyage, c'est... Le va-et-vient entre l'émerveillement et l'inquiétude pour ces beautés qui sont en train de disparaître presque sous vos yeux.
Exactement. Tous les jours, on était tenaillés entre ces deux extrêmes d'apothéose, d'émerveillement et de larmes, d'émotions et de cris d'indignation parce que c'est, on voit un monde qui s'en va et qui ne reviendra pas. Une forêt primaire détruite, elle ne se reconstitue jamais. Alors comme on le disait tout à l'heure, il y a un seuil de régénération possible. Au-delà de 30% de destruction, en deçà de 30% de destruction, on peut récupérer une forêt, un biotope, un fleuve, un écosystème. Au-delà, c'est très difficile. Les équilibres subtils sont trop brisés, trop cassés. Mmh. Et il faudrait beaucoup plus de temps que ce dont on dispose. Donc il faut vraiment sauver ce qui peut l'être. Et c'est pour ça que le tourisme, les visiteurs, sont la condition même de la survie de ces écosystèmes. Il y a 55 parcs naturels à Madagascar, privés ou publics, et s'ils n'ont pas de visiteurs, ils sont condamnés. Il faut aller les voir, payer un ticket d'entrée, ça paye des gardiens, ça paye leur famille, ça donne un intérêt économique à ces parcs. Donc il faut relancer le tourisme à Madagascar si on veut sauver l'endémisme. On est co-responsable de la survie de ces trésors endémiques. C'est pas simplement les Malgaches, parce qu'effectivement, vous le savez, tout le monde le sait, ils sont pauvres, et le ventre affamé n'a point l'oreille écologique. C'est comme ça. Et on serait pareil. On ferait la même chose. Donc c'est des systèmes vertueux qu'il faut remettre au goût du jour, et ça passe par le tourisme. C'est un paradoxe, mais il y aura jamais de tourisme de masse à Madagascar. Mmh. On en est loin. Il faut faire du tourisme solidaire, qualitatif, pas quantitatif, avec des gens qui veulent s'engager, rester moins d'un mois à Madagascar, c'est même pas la peine d'y aller. Mmh. C'est déjà tellement compliqué, c'est tellement enclavé. Il faut y aller en douceur, en profondeur. Il faut pas prétendre vouloir faire le tour du pays. Ça prend une vie, ça prend 4 ans. Il faut y aller à un endroit, se concentrer sur un village, essayer d'apporter, donner du sens au déplacement de soi, essayer d'y laisser quelque chose de plus positif que des euros et des photos. Mmh. Il faut essayer de s'engager. C'est ça aujourd'hui le tourisme. Il faut y donner du sens, je crois.
Allez, on reste à Madagascar, le temps d'écouter un groupe malgache, Dizzy Brains, sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Nona be waza man man nerie tad love laza nona be dal si ba we toi iren ren keliane anim buzo sena nona be non a bewaza man man nerie tad love love zao e sugli accanto zao de zao pinti fai già siano i ren ren che li anni la bandina squadri gaggi già beva zere chi fa non a be non avevo asa man man nerie tad love love zao non avevo dal si pawe tua iren ren che le anne ane buzo senao e
c'était Mwanabe, The Dizzy Brain sur France Inter.
Ah, oh, salama, madame.
Salama.
Ah oui. Salama, salama. Bonjour. Salama. Bonjour, madame.
Et où allez-vous maintenant?
À la Vanoune.
À la Vanoune.
Mais on ne va pas arriver tout de suite, hein?
Non, dans 4 jours. La Vanoune, 4 jours. Et va
4 jours?
Vinice, dis à ton père qu'il est dort ici maintenant et à demain matin.
Oh, c'est trop gentil.
Merci.
Oh.
Bonjour.
Entrez.
Merci de nous accueillir. Ce petit garçon est un tavel, c'est-à-dire que c'est un petit survivant. Il a failli mourir la semaine dernière. Il a eu une énorme crise de palu. Il avait les mains jaunes, les yeux jaunes et tout. Il avait une fièvre colossale. Et puis il a été guéri à l'hôpital d'Androuk. Voilà, il est là, il va bien. Il est heureux, il fait le bonheur de sa grand-mère, de son papa.
Thank you.
Nous étions à Bévoilave, village du sud de Madagascar, où vous avez rencontré Angéline, Alexandre Poussin, avec votre famille. C'est une rencontre qui vous a marqué, une des plus belles que vous ayez faites, je crois, là-bas.
Il y a eu un vrai partage avec ce village, ce chef de village aussi. On est arrivé à 10h, en plein cagnard, et on s'arrête pas à 10h, il faut continuer un peu, parce qu'on n'avait pas fait assez de kilomètres ce matin-là, il faut quand même avancer, sinon on y serait encore, hein, madame. Et là, Armand, le chef du village, a parlé à Ulysse, et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Dis à ton père de rester là. On va aller te chercher des cocos. C'est ce que vous êtes allé faire, non ?
Oui.
Et ouais, bah,
il nous a dit, demande à ton père de rester là. On lui a dit, je sais pas, parce qu'on n'a pas fait assez de kilomètres ce matin. Il a dit, bon, alors faites au moins une pause. Et on a dit d'accord. Donc ils sont allés monter à des cocotiers de 25 mètres de haut, sans branches. Donc, tu regardes le cocotier, c'est, on dirait, une tour. Normalement, quelqu'un normal de France, il est déjà un peu découragé quand il voit un cocotier comme ça. Voilà, eux, ils montaient tout en haut, à une main, parce que l'autre main, elle devait tenir une machette pour couper la coco. Donc, c'était incroyable et ils ont fait tomber les cocos, puis on les a mangés.
Et puis, du coup, vous êtes restés.
On est restés parce que l'accueil était tellement généreux, subtil, fin, tout en finesse. C'est toute la culture qui était dans cette finesse, cette délicatesse. Les Malgaches sont des gens réservés, ils sont modestes et ils abordent jamais les choses frontalement et directement. Ils disent pas les choses, il faut les ressentir. C'est leur politesse, c'est leur grâce. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Et c'est pour ça qu'il faut les écouter. C'est tout un état d'esprit qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on met du temps à l'obtenir. Et là, du coup, on s'est dit, mais c'est la raison même de notre voyage. Donc, restons, partageons, échangeons. Et trois enfants étaient morts du palu cet hiver-là. Mmh. Donc, on avait avec nous une recette un peu miracle, l'Artemisia annua, qu'on avait testée en Afrique 10 ans avant. C'est une plante dont on fait une tisane et qui est plus efficace que tous les médicaments qu'on peut trouver. Surtout qu'il y a beaucoup de faux médicaments dans ces pays-là. Donc les gens, de toute façon, n'ont même pas accès aux médicaments, ils voient jamais de médecin de leur vie, ils n'achètent pas de médicaments. Donc ils meurent du palu, c'est bête, c'est comme ça. Donc avec cette tisane, avec cette plante, on peut se sauver la vie. C'est aussi simple que ça aussi. Et donc on a fait un atelier, jardinage, pour leur apprendre à planter cette plante. Et Angéline, qui était devenue notre amie tout de suite, la mère du chef, qui parlait très bien français, elle a planté cette artémisia, et d'année en année, elle nous disait, cette année, zéro mort. Cette année, zéro mort. Cette année, zéro mort. Et elle l'a filé à la chef du village voisin. Et puis, il l'a filé à la chef du village voisin. Donc, ça a fait tâche. Ouais. Donc, nos petites graines, dans notre charrette, il y a eu un sillage comme ça de missions catholiques, de bonnes sœurs, de dispensaires, d'hôpitaux et de gens de bonne volonté qui ont semé l'artémisia annua et qui font de l'automédication, de la prévention et qui n'ont pas le palu. Ouais. C'est comme ça que nous quatre, en milieu impaludé pendant 4 ans, on n'a jamais eu de crise de palu.
Sans prendre,
la Malarone, on peut pas la prendre plus de 3 mois. Ouais. Si vous êtes français et que vous m'écoutez, que vous allez à Mada, prenez de la Malarone. Mmh. Je dis pas l'inverse. Mais au-delà de 3 mois, on n'a plus le droit de la prendre. Donc, il faut trouver d'autres moyens de se prémunir.
Mmh. Et puis, il y a beaucoup d'effets secondaires, avec tous ces médicaments, Donc, c'est pas anodin. Mmh.
Alors après 4 ans de rencontres et puis de belles actions comme celle que vous venez de nous décrire, 5000 kilomètres pour boucler votre tour de Madagascar et c'est la fin du voyage.
Et voilà, on quitte notre dernier déjeuner. Qu'est-ce que ça te fait toi de savoir que c'est bientôt fini?
Moi pour moi c'est triste quoi. Tu vois de séparer c'est quand même. Là, on y voit l'ambiance, c'est rigolant, on est ensemble. Ça fait lourd, quoi. C'est lourd, hein. Mais...
Toutes les choses ont une fin.
Ouais.
Et pour les enfants, ça va être dur aussi de quitter ses habitudes. Cet oncle Revel, qui est devenu vraiment un membre de la famille, leur grand frère, leur oncle, mon frère, et leurs conversations au quotidien. Et cette musique, cloc, 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 qui va faire partie intégrante de notre vie. La vie va être différente sans ça. Il va falloir reprendre notre place dans le trafic.
Ça a été difficile de rentrer, Alexandre Poussin, de reprendre sa place dans le trafic?
Oui et non, parce qu'en fait, c'est notre destin. Notre destin, c'est pas d'être des nomades éternels et de graviter comme ça autour ou dans un pays. Notre destin, c'est d'aller récolter, d'aller moissonner. Et là, c'était de transformer tous ces enseignements, tout ce partage, toute cette richesse culturelle à nos concitoyens français. Mmh. Et donc, notre métier, c'est d'être écrivain voyageur, documentariste, et c'est de faire, ça justifie notre travail de rentrer. Donc là, on est très occupé depuis un an, et ça va nous occuper encore 3 ou 4 ans, au moins, en symétrie, ce voyage. Donc là, écrire le livre et partager ce pain de l'aventure.
Ouais. Ulysse et Phila, et un mot aussi de votre part. Ça fait un an que vous êtes rentré maintenant, vous avez repris une vie normale, l'école. Ça vous manque? Ça a été difficile, le retour à la vie d'avant, à la vie normale?
Pour moi, j'ai pas vraiment eu de mal, on va dire, à me réintégrer socialement dans ma nouvelle école. Le problème, c'est que Madagascar me manque énormément et que l'école où je suis, dans laquelle je suis, le niveau scolaire est extrêmement élevé. Et après 4 ans où je n'ai pas été scolarisée, on va dire normalement,
tu as été effectivement dans une situation assez exceptionnelle. Pour
oui,
ton...
et donc me retrouver là face à cet enseignement scolaire extrêmement dur.
Et théorique, hein.
Et, oui, très théorique. Et puis même, j'ai été en internat toute l'année. Bon, j'ai pas vraiment eu de mal avec l'internat, même si au début c'était un peu dur, mais.
Ce qui était insensé, c'est qu'ils lui ont pas demandé une seule fois de parler de Madagascar en un an.
Si, à la fin.
Scandaleux.
Le dernier jour, en fait.
Scandaleux.
Bah, le message est passé. Hein. Si dans ton école, ils écoutent, ils vont savoir. Allez, rapidement, Ulysse, toi, comment s'est passé le retour pour toi à l'école?
Alors, moi, le retour, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Sauf que on est arrivé à peu près 3 jours avant la rentrée des classes. Donc, à l'arrivée, au début, à Madagascar, quand on a décollé, il faisait très chaud. On est arrivé en France. Soudainement, la température a baissé de 10 degrés.
Eh oui.
Oui,
donc, il a fallu se réhabituer à nos conditions climatiques.
Donc à l'école, moi j'avais pas l'air bête, j'étais en doudoune en plein soleil. Donc, mais sinon, comme l'a dit Phila, pour moi c'était un peu pareil. Socialement, je me suis plutôt bien adaptée, mais mon école, le niveau était quand même un peu plus bas.
D'accord, très bien. Mais ils vont être contents eux aussi d'apprendre ça. Allez, on va rester à Madagascar parce que dans un instant, nous allons retrouver la chronique du train de savate planétaire Pierre Joss, rédacteur en chef du Guide du Routard, qui va lui aussi nous donner son œil sur Madagascar.
J'ai tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai rompu le charme, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, vent dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh, ma sœur, prends garde, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, dit, tout dit, pas, tout dit, tout, tout dit, tout dit, où tu mourras d'ennui, tout dit.
Camille, tout dit dans le temps d'un bivouac sur France Inter. La programmation musicale est signée Djoubaka.
Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion, toujours les valises.
Sur France Inter.
Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai. Un baiser de Russie, un banco à Bangkok.
Le temps d'un bivouac.
Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait. Tout, tout, tout.
Bonjour Pierre Joss.
Bonjour Daniel, bonjour les poussins.
Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Vous, vous vous connaissez.
Hein,
vous
ah bah écoute, déjà... moi j'ai tenu les poussins dans mes bras.
Ah, hein, c'est vrai. Dans l'œuf.
Et alors ce qui est génial, c'est que ils sont restés des poussins.
C'est-à-dire
ben, l'âme jeune, vive, chaleureuse et généreuse. Ouais. Et c'est pas devenu des grandes poules, des grands coqs, fiers comme des verres tabac. Quoi. Ils sont restés naturels et vifs.
Alors, avant d'être commentateur animalier, vous êtes rédacteur en chef du guide du Routard, Pierre Joss. Et vous connaissez très bien Madagascar.
Non, non, soyons modestes. Parce que, y compris oui. Après ce que j'ai entendu là, je me sens tout petit.
Hein. D'accord.
Et ça m'évite d'ailleurs d'en parler. Ils en ont parlé vraiment très très bien sur le plan social, sur le plan culturel, sur plein de choses. Moi, je vais vous parler un peu tourisme, et puis les trucs à pas louper, ou les trucs un peu insolites. Moi, j'ai été deux fois à Madagascar. Je connais surtout la région au sud de Tananarive, très peu le nord, mais comme vous le savez, c'est plus grand que la France. Ça fait 1500 km de haut. Donc, en deux voyages, j'ai pas pu appréhender l'ensemble de... Mais enfin, le peu que je connais, je le connais bien.
Alors, voilà. Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors, je vais vous chanter National 7.
Ah, très bien.
Alors, oui, bah, c'est la grande route qui part de Tananarive.
Il y a une National 7
oui,
à Madagascar.
Une vraie National 7 avec des bornes rouges et blanches comme il y avait dans le temps sur notre National 7.
Et elle est goudronnée.
Pardon?
Elle est goudronnée.
Ça y est, une des rares routes. Parce que la dernière fois que j'y étais, il restait 40 km de terre battue, un peu aléatoire au milieu. Ça y est, elle est
totalement goudronnée.
Tu me le garantis.
Oui, je suis pas passé en charrette, mais je sais qu'elle est goudronnée.
Voilà. Alors donc, je voudrais juste revenir sur un truc dont vous n'avez pas parlé, parce qu'évidemment, vous aviez une charrette à Zébus. C'est quand même le moyen de transport idéal, c'est le taxi brousse. Hein. Alors, il y a différentes variétés suivant votre portefeuille, et votre niveau de confort. Bon. Et donc, il y a une étape que j'adore, ce qui s'appelle Fianar, qui est à peu près à mi-chemin entre Tananarive et Tuléar. Alors, Fianar, c'est un peu le camp de base pour des super balades dans les montagnes alentour. Et surtout, alors, un village, alors, vous allez les poussins me détromper ou pas, un village où pratiquement personne ne va, tout simplement parce que c'est une heure et demie de piste absolument épouvantable et il y a un taxi brousse par semaine. Bon, c'est alors vrai. Imaginez, on peut y aller en charrette à Zébus, effectivement, ça c'est une bonne, ou alors louer un 4x4 avec chauffeur. Alors, je vais vous emmener à Soatanana. Alors,
Soatanan.
Voilà. J'attendais à ce qu'ils me reprennent, mais prenons pas le A à la fin. Ouais. Et donc, c'est un village de 1500 habitants qui appartient à une seule religion protestante, avec un pasteur. Et alors, ce que je recommande, faut pas y aller en semaine, faut y aller à 10h du matin, un dimanche, pour assister à la messe. Alors même si vous êtes bouffeur de curé, il faut y aller, parce qu'il y a une ferveur, il y a des chants absolument magnifiques, et surtout, à la fin de la messe, vous partez en procession avec les 1500 personnes, c'est bien simple, il y a les rares catholiques et les grabataires qui n'y vont pas, hein, et il y a les 1500 personnes toutes en eau blanche, avec des chapeaux de paille, qui vont passer en chantant, en rigolant, entre les murs de latérite rouge. Imaginez, là, si vous ratez vos photos, vous êtes les derniers des nuls, quoi.
Et n'insultez pas nos auditeurs.
Voilà. Ça fait très photogénique.
Non, c'est, et un accueil absolument extraordinaire. Oui. Alors, mais surtout, là, je le dis, si vous êtes invité à déjeuner, après la cérémonie, absolument refuser, surtout si vous êtes timide.
Alors pourquoi il faut refuser?
Ah ben c'est simple. Ça m'est arrivé, j'étais le seul Vaza. Hein.
Donc le seul
Alors
blanc.
Le pasteur m'invite à déjeuner et je me retrouve sur une plateforme, dans un grand hall, 300 personnes autour de moi, seules sur une chaise avec une table, et on me sert à déjeuner. Jamais, attendez, c'est absolument... Et les gens vous regardent manger. Quoi. C'est extrêmement émouvant, en même temps c'est... c'est frustrant, c'est malaisant, étonnant,
comme dirait
c'est
ma fille.
Déstabilisant. C'est ça. Voilà, c'est déstabilisant et ça montre la qualité de l'hospitalité malgache.
Un mot pour finir, Alexandre, sur Madagascar.
Eh ben, si vous avez aimé nos histoires à la télévision, eh bien, il est possible d'aller marcher avec notre charrette. Elle est au catalogue de Nomade Aventure et on peut marcher 3-4 jours autour de Tana, de rouve en rouve. Les rouves, c'est les châteaux des 12 collines de Anjiano Poinimern, le premier roi qui a unifié le pays. Et on va partir du domaine Saint-François, en passant par le rouve d'Ambujachim et jusqu'à Ambuimang. Et c'est un itinéraire un peu à la carte où on peut marcher avec la charrette, pousser la charrette, mettre son sac à dos dans la charrette, camper, manger comme on a mangé, vivre comme on a vécu avec nos débuts. Et avec notre gars, Revel, qui vous attend chaleureusement. Ouais. Alors, il faut accepter de manger du riz sardine et spaghetti corned beef. Ça sera un régime poussin.
Hein. Un dernier mot,
Oui, un dernier mot. Bah, je suis d'accord avec les poussins. C'est un pays extraordinaire et en même temps désespérant. Il y a quoi 300 000, à peine 300 000 visiteurs par an. Il faut y aller.
Et la moitié sont binationaux. Hein. Et il y en a moins, en fait.
C'est le pays, alors c'est le pays de la lenteur. Je crois que c'est important de retrouver cette notion d'espace, temps, lenteur. On appelle ça le mora-mora sur place.
Mou amour.
Et donc, faut y aller pour profiter des gens, pour parler avec eux, c'est une expérience extraordinaire.
Merci, Pierre Josse. Il faut y aller si on a les moyens, hein. Et puis pour un petit moment, pour pas utiliser l'avion pour rien. Voilà. À la semaine prochaine, Pierre Josse et la famille Poussin. À bientôt.
Sayonara. Et bien d'autres choses encore.
Au revoir, monsieur.
Demain à 16h, nous partirons sur la piste des virus pour comprendre comment émergent les nouvelles maladies. Et à 17h, nous vous emmènerons à dos de dromadaire sur les pas de Lorenz d'Arabie. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Laïla Kadour pour un nouveau Mac de l'été.